programa dos Lusodescendentes e dos Lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Votre trio de choc préféré est de retour. Comment ça va, Antonin et Ricardo?
Écoute, on est dans un endroit assez inhabituel aujourd'hui, non?
Exactement.
Salut tout le monde, on a hâte de vous proposer cette émission.
Sophie aussi est avec nous, notre experte. Comment ça va, Sophie?
Hello à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui, surtout dans cet endroit un peu spécial. Très enthousiaste en tout cas.
Alors tous les deux, on va pas trop vous entendre cette émission puisque c'est un peu spécial, comme vous l'avez dit. Nous sommes en direct de la première édition du Festival de cinéma portugais Olá Paris au Club de l'Étoile, donc à Paris. Nous sommes ici jusqu'à 16h, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et nous avons avec nous Wilson Ladeiro, l'un des deux frères à l'origine de ce projet fou. Comment ça va? Comment ça se passe cette première journée de festival?
Bah, cette première journée se passe très très bien. Pas mal de monde est venu voir le film Alma Viva de Cristel Alves Meira, donc on est très contents. Il y a eu une très belle discussion très intéressante à la fin où il s'est dit des choses assez sympas sur le tournage. Cristel, Lua, sa fille qui joue le rôle principal, et Jacqueline Corrado qui joue la mère de la fille dans le film étaient là toutes les trois. C'était vraiment une discussion très intéressante et vraiment... Et le public était au rendez-vous, ils ont posé des questions, c'était vraiment super.
Et ce n'est que le début de la journée.
Et ce n'est que le début, puisque là commence maintenant le documentaire de Claudio Varejão à Massane. Le public est en place, je crois que la séance a dû commencer même à l'instant, et puis il y aura une rencontre avec Claudio qui est présente aussi.
Trop bien, et Claudio qui va passer aussi nous voir. Et hier soir, nous avons eu le droit à une magnifique soirée d'inauguration avec la diffusion en avant-première du film Benzo de Margarida Caldos qui sortira en salle le 25 décembre. Nous serons en interview avec elle juste après. Mais qu'est-ce qui vous a autant plu dans ce film?
Je crois un peu la même chose que tous les gens que j'ai entendu dire hier à la sortie du film, voilà, qui m'ont tous dit mais quel beau film, quelle histoire si bien racontée, une photographie très 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 belle, et puis cette lenteur un peu dans le film qui finalement correspond tout à fait à la lenteur de l'île de Saint-Tomé et Príncipe, qui est, voilà, donc elle a vraiment, bon, Margarida Cardoso, on la connaît pour avoir fait déjà des films sur ce thème là des colonies, et vraiment ce film il est excellent, et puis il raconte, bon, on rigole pas beaucoup comme vous avez pu le remarquer, hein.
C'est sûr,
c'est un film très triste, assez lourd, mais il est magnifique, il est vraiment magnifique, et je crois que tous ceux qui ont vu ce film et qui l'ont aimé, voilà, comprennent très bien ce que je suis en train de dire, et on l'a aimé pour les mêmes raisons, quoi.
On n'a pas beaucoup de temps, donc en quelques mots, pourquoi vous avez voulu créer ce festival?
Alors en quelques mots, le festival, en fait, c'est très simple. Le cinéma portugais est un cinéma de avec un grand intérêt, et il n'est pas assez visible en France et notamment à Paris. Donc voilà le but. Moi, je vois plein de films. Je connais plein de réalisateurs, et certains, je parle de la génération actuelle, hein, ceux qui travaillent en ce moment, et il y en a plein qui ne sont pas du tout connus. On en connaît 3, 4, 5 les plus connus, mais il y en a plein qui ne sont pas connus et qui gagnent vraiment à être connus. Donc l'idée, c'était vraiment de faire découvrir ces réalisateurs-là au Festival Olá Paris.
Et c'est quelque chose quasiment fait, ça commence déjà très très bien. Vous avez aussi ajouté d'autres formes d'art lors de ce festival, notamment de la littérature, mais aussi du street art avec notre cher Glaçon. Pourquoi?
En fait, on a voulu... Bien sûr, les films restent la chose la plus importante, mais on a voulu aussi faire des activités annexes et intégrer d'autres artistes, notamment des artistes plus jeunes et luso-français, qui vivent en France, tels que Glaçon qui nous propose cette exposition magnifique pendant les 3 jours du festival, mais également des dessinatrices et dessinateurs. Nuno, qui est ici à côté de moi, qui a réalisé la magnifique affiche du festival, sera aussi en dédicace dimanche pour un livre qu'il a illustré. Madeleine Pereira pour Borbolette à sa bande dessinée. Ciné formidable qu'elle va aussi dédicacer dimanche matin, et Ana Maria Torres qui a fait sa dédicace ce matin déjà avant le film Alma Viva, qui signait son livre, qui se passe d'ailleurs au même endroit, dans le même village, même je crois carrément que l'action du film Alma Viva. Voilà, donc on voulait que ces activités soient intégrées parce que il y a du cinéma, mais il y a aussi d'autres artistes qui sont autour de ça, et en fait tout ce monde qui se rencontre au sein du festival, ça, bon, on a bien vu hier dans la soirée que tous ces gens ont communiqué, ont parlé, ont échangé sur leurs activités différentes, et ça vraiment c'est génial. Nous on est super contents parce que voilà, il y a eu une dynamique, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, et c'est exactement ce qu'on voulait.
C'est vrai que c'est un très bon échange, et estamos com o Nuno Saraiva então, que realizou o cartaz do festival Olá Paris. De onde vem essa inspiração? Temos um homem, uma mulher, temos o Arco de Triunfo que está ao pé de nós. Como é que escolheu esses elementos?
Bom, muito obrigado pela oportunidade de aqui poder falar em direto e ao vivo
convosco e obrigado, agradeço também à Capa de Majerão, que acabou por ser, curiosamente, foi a primeira entidade que me convidou a vir a Paris em, salvo erro, 1998, quando vim a inaugurar uma exposição com o meu amigo João Paulo Coutrinho, que foi um dos grandes...
Eu não estava.
E então, para mim, foi... É um insólito e presenteiro prazer, não é? Estar aqui convosco novamente. Vocês provavelmente ainda não tinham nascido ou eram bebés. mas bom, para mim esses momentos foram fantásticos e foram também curiosamente ligados à banda desenhada. A banda desenhada, sendo este cartaz uma ilustração, não é? Eu entendo apenas como um desenho muito grande, mas vai buscar muito ao universo da banda desenhada. O universo da banda desenhada que, dentro do meu trabalho, agarra sempre protagonistas como o fado, como as tradições. E também o erotismo, porque o meu trabalho também, para além da componente política, porque eu também faço cartoon político num jornal, num suplemento do Jornal Expresso, esse suplemento chamado Inimigo Público, que é uma espécie de valade de Canard Chenet agora foi-me o nome, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Bom, e então, todo o meu trabalho tem muito que ver com o humor, mas os códigos, as fórmulas que eu encontrei para fazer este desenho têm muito que ver com a emoção, a paixão, as minhas relações com os bairros que me viram crescer e nascer, como a Moraria, o homem que está presente, que está com uma figura um tanto ou quanto rude e grotesca, mas depois tem um rosto um pouco, enfim, efeminado, com um ar assim bastante doce, mas tem um corpo de homem-besta, assim, muito forte.
Cheio
de tatuagens. Esse homem também tem as unhas todas pintadas, tem um ar assim um bocado, até mesmo ligeiramente fashion também, um pouco, apesar do seu lado um bocado rude e
parece apaixonado.
Ele está apaixonado, ele está a tocar fado, ele está a cantar o fado, mas ele está apaixonado, não se percebe muito bem sobre o quê, o que é que ele está a pensar, mas na minha ótica ele está apaixonado pela cidade, por Paris. E um bocadinho mais afastada, enquanto realizadora de cinema, aí está a homenagem ao cinema, ela está a filmar e a bobina da sua câmara é um coração. E toda ela é coração. E o rosto dela, que ao mesmo tempo é... também, e aí está o simbolismo muito do meu trabalho, ao mesmo tempo o rosto dela é uma está encostado à Maria de Medeiros, mas ao mesmo tempo também é um pouco o logótipo dos Jogos Olímpicos de Paris.
É verdade, é verdade.
E aquela estética de corte de cabelo da Louise Brooks também, dos anos 20 do século 20. Ela é uma mulher que está também muito fashion, muito bonita, mas com um ar também de peixe, ao mesmo tempo ela é uma sereia, é uma mulher sereia. Portanto, há uma série de cargas simbólicas aqui à volta e eu procurei também fugir aos estereótipos. Eu sei que a cidade, ou melhor, França e a Bélgica também, está muito agarrada à banda desenhada e a banda desenhada, de certa forma, influencia muito este trabalho, mas eu procurei fugir aos estereótipos e não desenhar, sei lá, Torre Eiffel, etc, etc. Mas sim, pronto, aqui a zona da Letoile com o Arco do Triunfo. Claro. Deixem-me só dizer uma coisa, só para terminar, eu tenho que agradecer e muito ao Wilson e ao Fernando pelo convite que me fizeram e acima de tudo pelo desafio que é de pegar num universo do cinema, não é? O universo do cinema é muito forte, não é? É rostos, é momentos, há toda uma carga à volta dos postos do cinema que não estão muito encostados à banda desenhada e acho que isto só podia acontecer no país do Goscinny.
Exatamente. Uma última pergunta para o Wilson em francês. Então, la semaine dernière, nous étions en interview avec Marie de Medeiros, la marraine du festival. Est-ce que c'était un choix évident?
C'était plus qu'un choix évident, c'était notre premier choix en fait. Quand on a démarré cette idée, on s'est dit il faut un parrain ou une marraine. Et puis on s'est regardé, on s'est dit l'idéal, ce serait Maria de Medeiros. Quoi. Il n'y a pas plus franco-portugais, actrice, réalisatrice, chanteuse même. Enfin, voilà. Donc elle représente vraiment ça. Et puis quand on l'a contactée, elle a dit un grand oui tout de suite. Elle a dit mais bien sûr, avec grand plaisir, parce que Paris pour elle c'est pas complètement anodin. Mmh. C'est ça, la ville où elle habite et elle a vraiment un attachement particulier à Paris. Et puis donc elle est à fond dans le projet avec nous et on est vraiment ravis. Et elle est vraiment, c'est une super marraine.
Félicitations à tous les deux. Merci Wilson. Obrigado, Nuno, pour le stade con nous. On continue en direct du Festival de la Paris jusqu'à 16h. Juste après, vous pourrez retrouver une interview que nous avons réalisée avec Margali De Cardoz, réalisatrice du film Bones, qui sera disponible en salle le 25 décembre. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Not Enough, la dernière musique de Prisha, notre beatboxeuse préférée, déjà passée par Themestad de Schwanton.
Not Enough.
Na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Continuamos em direto do Festival de Cinema Português Ola Paris, no Clube de l'Étoile. Ontem à noite foi projetado em estreia o filme Banzo, de Margarida Cardoso, a quem já fiz umas perguntinhas.
Boa tarde, Margarida Cardoso. Primeira pergunta, está tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Obrigada por esta entrevista.
Obrigada a nós. Ontem à noite foi projetado em estreia o filme Banzo, cuja estreia é prevista em França no dia 25 de dezembro. Primeira pergunta, por que apresentar Banzo no Festival Ola Paris?
O Banzo foi apresentado, foi um convite do próprio festival, também porque é um filme que ainda não teve a sua saída em França e seria, penso eu não perguntei quais seriam as razões, espero também pelo seu tema e por ser também um filme que fala bastante do Portugal, da sua história, não o seu lado melhor da história, mas acho que é muito ligado à história de Portugal. Portanto, acho que é um filme emblemático para se poder, de certa forma, também discutir a identidade portuguesa.
Para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de o ver e que não conhecem a história, fala então de um médico que vai na ilha de Santo Tomé e Príncipe, não é? Para curar uma doença que ninguém conhece, e é verdade que é no ano de 1907, por isso é um tempo ainda de colonialismo, onde os pretos não são tratados como os brancos, e é verdade que é uma parte obscura da história de Portugal. Qual é o objetivo, final do filme?
Eu acho que quando tu fazes um filme não tens propriamente o teu objetivo, é sempre comunicar qualquer coisa, e eu acho que o que eu faço com os meus filmes, as outras pessoas também tentam fazer, que é fazer as pessoas pensar, fazer as pessoas refletir, e depois cabe às pessoas, como se diz, o cinema não é mais do que luz e sombra projetada, pois cada um tira as suas conclusões, mas a minha intenção sempre com o meu trabalho é falar deste passado, e tem sido recorrente nos meus trabalhos, e neste caso é um passado um bocadinho mais atrás do que os outros filmes, portanto é 1907, como estavas a dizer, e passa-se numa plantação de cacau, portanto numa altura em que a escravatura oficial já tinha terminado, mas que se continuava a haver o sistema de contratos, as pessoas eram contratadas, e ficavam para sempre, de qualquer maneira, escravizadas, porque teriam que pagar também o dinheiro das viagens, coisas que também nos remetem para o que se passa hoje a nível da mão de obra no nosso mundo ocidental.
É verdade, é um filme muito empenhado, na verdade. Mas então, porquê banzo? O que é essa palavra? É uma verdadeira doença ou não?
A Banz era o nome que foi dado na altura. Era mais. O nome vem dizem que vem de um dialeto angolano que é Quimbundo, e o dialeto Mbanza quer dizer casa, a nossa casa. E Banzo é mais ou menos a mesma coisa que nós, saudades. E são saudades tão grandes que é uma nostalgia que as pessoas que vinham escravizadas, de Angola e do continente africano em geral, tinham essa tendência. Portanto, caíam numa espécie de letargia, deixavam de comer, e depois, muitas vezes tentavam se matar, porque era a única maneira que teriam de eventualmente, serem mais felizes. E eu, para mim, interessou-me essa questão do banzo. Também, que é uma coisa muito. Também acontece hoje, mas sobretudo naquela altura, como estavas a dizer, as pessoas negras não eram consideradas quase como pessoas, e o facto de elas quererem ter uma certa agência sobre o seu próprio corpo, quer dizer, decidirem se iam viver ou não, era uma coisa inimaginável nessa altura. E então chamou-me muita atenção essa questão, e resolvi então criar este filme que se passa neste ambiente.
Eu gostei muito de poder ver, pronto, essa forma de tratar as pessoas, tocou-me muito, no sentido negativo, claro, e adorei a personagem principal do médico. Eu acho que é a personagem mais humana, mesmo do filme. Achas que mesmo neste tempo haviam médicos humanos que tratavam os pretos como seres humanos?
Ah, tenho a certeza, porque eu fiz, antes deste filme, fiz um outro filme que se chama Understory, e que é tudo sobre a planta de cacau e a maneira como, no fundo, a planta viajou e criou uma certa coisa, uma série de sistemas. E tive muito tempo em São Tomé, e foi em São Tomé, nos arquivos, que eu vi muitos relatórios médicos. E os médicos tinham uma influência muito grande, porque não agiam só como médicos, eram também umas figuras sociais, e em geral eram pessoas que, como tinham estudado e às vezes mesmo viajado, para lá da África e do Portugal, continental, tinham uma noção um bocadinho mais aberta do que era um ser humano, do que era o facto das pessoas terem sentimentos, e em geral eram pessoas com esse poder, sim. Quer dizer, que empatizavam muito, sim.
Ainda bem que havia pessoas assim. Tu viveste em Moçambique, realizas filmes em ligação com as guerras coloniais e o período pós-colonial, etc. Ainda é um assunto, uma questão muito tabu em Portugal, não é?
Não é, quer dizer, eu hoje, acho que hoje há muitas pessoas até mais para a tua idade, pessoas muito mais novas do que eu ainda sou da última geração em que fui testemunha, era pequena, mas vivi aquilo, não é? Mas há outras pessoas que não viveram, é que viveram através, em ausência, digamos, viveram através das histórias dos pais, dos avós. E essas pessoas começaram a fazer filmes, e acho que a quantidade de filmes e de olhares faz com que agora já não seja tão tabu. A única coisa que é, de certa forma, difícil e que é um tabu, e que hoje, tu sabes, fala-se muito em todo o mundo, não é? De questões racistas, de que são questões xenófobas, que pronto, há este ressurgimento também da maneira de pensar das pessoas um bocadinho sem filtros. E eu acho que em Portugal existe um bocadinho a questão de que nós, depois de perdermos o que chamávamos império, aquelas colónias todas e aquilo tudo, nunca reestruturámos ou refizemos a nossa identidade. Portanto, os valores da nossa identidade, estão sempre um bocadinho ligados a esse passado, porque era um país, eu quando era pequena dizia-se, Portugal é um país muito grande, porque eram todas as colónias e não sei o quê. E hoje as pessoas continuam ainda a não encontrar uma coisa identitária que substitua isso. E eu acho que é isso é um dos grandes problemas para se falar mais. Porque quando falas muito, começas a pensar, ah, mas afinal nós não somos nada. Se calhar não, vamos começar do zero, estás a ver? E acho que é isso, mas já há muita gente a falar sobre isso.
Ainda bem, e espero que este filme vai ajudar. Obrigada por ter respondido às minhas perguntas.
Obrigada, Júlia.
E já estamos ansiosos de ver o filme no dia 25 de dezembro, para o Natal mesmo, prendinha em França.
Vem com o Menino Jesus. Espero que tenha espectadores. Obrigada.
Obrigada.
Não se esqueça de ir nos cinemas no dia 25 de dezembro. Pode ser uma prenda de Natal para toda a família, ir ver o Benzo. E continuamos logo depois com a realizadora Cristela Alves Meira, que já conhecem. Mas primeiro vamos ouvir uma música que adoro, chama-se Paraíso, que me cerca e é com BK, GXNVS e a famosa Mayra Andrade.
Eles querem minha cabeça, esse povo não aceita. Não nasci pra ter chefe, bota as armas na mesa. Quem criou, quem herdou, então me diz quem merece. O topo do mundo, do trono, seu dono, seu número um. A faca e o queijo, a farsa e o beijo, Jesus sabe bem. Não se emocionar sempre foi a lei. Ser feliz sempre foi a regra. Não tente medir o que alcancei. Eu sou bem maior que a sua régua. Posso me tornar um monstro. Não vão me domar e ponto. Nem me assustar, nasci pronto. Eu me testar no confronto. Vai me pagar e é sem desconto. Mano, é sem desconto.
Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso que me espera. Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso.
Multipliquei do zero e apontado positivo. Sempre a mais, nada menos que isso. Único responsável pra mercadoria chegar na hora e no lugar exato. Não tenha medo de mim por isso, não fuja de mim por isso. Até quando eu minto eu sou verdadeiro. Espero que se sinta assim ao se olhar no espelho. Livre, igual qualquer bicho que voa. Tacando foda-se igual qualquer bicho que morre. Sempre bêbado de vida e umas doses de sorte. Pesadelo do sistema até que o sistema acorde. De fato, sei que a morte existe, viver é meu alvo. Vida no máximo, desafio a limite. Ultrapassar as crises, taças pro alto.
Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso que me espera. Mesmo com a guerra, Deus me permita ver.
Lembra, lembra, lembra. Na beleza está na essência. Julgamento e tribunais de um pardão. Pedra no caminho do menino, do menino. Só um segundo pra lembrar. Ser livre está mais perto, perto, perto de Deus que está na boca.
Ei, livre, igual qualquer bicho que voa. Tacando foda-se, igual qualquer bicho que morre. Sempre bêbado de vida e umas doses de sorte. Pesadelo do sistema até que o sistema acorde. De fato, sei que a morte existe. Viver é meu alvo. Vida no máximo, desafiar limite. Ultrapassar as crises, taças pro alto. Yeah.
Mesmo na guerra, Deus me
perdoa. Tempestade 2.1.
Temsha de Chmonton sur Radio Alpha. Nous sommes avec vous en direct du Festival de cinéma Orla Polige au Club de l'Étoile jusqu'à 16h. Nous sommes avec Christelle Alves-Mera, mais aussi avec Jacqueline Corrado, toutes les deux du film Alma Viva qui a été projeté ce matin. Comment ça va? Comment c'était ce matin alors?
Bah, c'était très joyeux. On était très contentes de voir une salle assez pleine, voire bien pleine.
Ah oui, même pour 10h45 du matin, je me suis dit waouh, ils sont motivés. Et surtout que il y a quoi? Une personne qui est partie, c'était la troisième fois qu'elle voyait le film. Donc elle a été excusée.
Ah ouais, c'est vrai que voir le film pour la troisième fois.
Non mais à la fin, elle est partie à la fin, je veux dire.
Ah donc elle est restée
pas pendant le film. Elle est pas restée pour le débat.
Ah, ouais, c'est ça,
parce que là, quand même, Jacqueline t'exagères.
Et du coup, ton film, je trouve qu'il sort un peu des autres, enfin, par rapport aux autres films sur les thématiques, puisque ça parle de sorcellerie dans un village de Tolajmonch. Pourquoi c'était important de faire partie de ce festival aujourd'hui, premier festival de cinéma portugais à Paris quand même?
Bah, je suis très fière d'en faire partie et je suis très heureuse que ce festival existe. Franchement, j'étais même surprise de savoir qu'il n'y avait pas de festival portugais à Paris. Donc, c'était très beau hier soir de voir et les Lusos, c'est-à-dire les franco-portugais comme moi qui font du cinéma, mais aussi les Portugais du Portugal, les réalisateurs qui sont venus spécialement pour le festival. Et c'était bien de se voir tous réunis sous le drapeau, on va dire, cinéma portugais.
Oui, ça semble une évidence, et ça c'est une idée fantastique, et maintenant j'espère qu'on va tous venir, et ceux qui écoutent, déplacez-vous, venez cet après-midi, venez demain, il faut soutenir ce bébé, ce jeune festival, c'est important, nous avons un cinéma d'extrême qualité, reconnu dans les festivals dans le monde entier, et vous avez des pépites, Christelle qui est là, avec qui j'ai le plaisir de travailler, mais Tiago Guedes, Claudio Verjão, Marguerite Cardoso,
Marco Martins,
c'est une chance inouïe, ils ont des prix dans le monde entier, ils sont reconnus. Je trouve que ce festival est essentiel pour les Français qui ne connaissent pas le nouveau cinéma portugais, mais pour tous les Lusos qui vivent en France et qui parfois me disent « Ah, on voit toujours les mêmes choses, le folklore et tout », eh ben c'est l'occasion. Alors au lieu de vous plaindre, venez découvrir, venez voir les pépites et les talents incroyables que nous avons, que ce soit les Lusos ou ceux qui sont là-bas.
T'as totalement raison, Jacqueline. Et du coup, vous l'avez dit, il y a eu un échange après. Loua, du coup, ta fille Christelle a pu participer aussi. C'est pas trop impressionnant d'être devant une salle comme ça?
Enfin, si, mais après, on s'y fait vite. Ouais. Les gens, ils sont bienveillants, donc du coup, bah...
Oui, en plus, de toute façon, t'es une star maintenant. Donc, logique, bien sûr que si. Et alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de questions? Quelles ont été les questions qui revenaient le plus? Est-ce que les gens étaient vraiment... très intéressée.
Mais on aurait pu parler encore très longtemps, en fait. C'est vrai
que vous avez dépassé toujours... sur le temps.
Ouais, ouais, on a dépassé. On avait envie que ça continue. Et oui, on sent les gens très intéressés, que ce soit des Portugais ou pas Portugais. Enfin, ça me fait toujours autant plaisir de voir que le film suscite de l'intérêt et des questionnements derrière.
Oui, il faut savoir que lorsque nous avons présenté ce film avec Christelle dans de nombreux festivals, c'est quand même un film qui a reçu, donc je le dis pour ceux qui écoutent, le prix du jury à Marrakech. On a été à la semaine de la critique, on a gagné des prix un peu partout. Et c'est magnifique de le présenter dans des salles. On voit des Russes se lever et dire « vous parlez de ma famille », des Lituaniens, des Serbes, les Corses. Je pense que ça dépasse de beaucoup la sorcellerie, ce que raconte Christelle. Ce qui est assez intéressant, quels que soient les publics, c'est pour ça que j'invite aussi le public de Radio Alpha à venir, c'est comment une Luso, en allant chercher des inspirations dans ses origines, mais pas que, parce que Christelle est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui fait beaucoup de recherches avant de faire son travail, comment elle a touché une universalité qui fait qu'on parle d'elle, de ce film, dans plein de pays différents, dans des festivals internationaux. Et donc le public, il a des questions sur des thèmes aussi variés que la transmission entre femmes, effectivement la sorcellerie, la société avant que le portable n'existe, ses transmissions de génération. Ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire presque 2 heures de débat. On a eu parfois des débats très longs.
On a ri aussi. Et puis c'était chouette que Loua soit présente parce que ça c'est pas arrivé souvent, donc c'était sympa de pouvoir entendre aussi ses retours d'expérience de tournage pour une petite fille, parce que quand elle a tourné elle avait à peine 8 ans.
C'est impressionnant.
Voilà, le temps passe et ça me fait toujours aussi plaisir de présenter le film auprès de ma fille.
Mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire, c'est la première fois que je vois Loua personnellement et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'elle vient aussi pour parler devant du monde. C'est un film, comme tu l'as dit, qui est très familial, au-delà de la sorcellerie, c'est un film familial, c'est un film de femmes. Et on le voit bien ici, vous avez vraiment l'air d'une petite famille, comme si c'était 2 sœurs et puis la fille. C'est vraiment un film de transmission. Pourquoi c'était important du coup de laisser la parole à Loua?
Bah, parce que c'est elle qui tient tout le film. Enfin, je veux dire, c'est vrai, elle crève l'écran. Elle nous transporte dans plein d'émotions. C'était très émouvant pour moi que ce soit ma propre fille qui joue quand même cette histoire familiale, comme tu viens de le dire. Et du coup, bah, ça me fait toujours très plaisir quand elle vient. Parce que c'était vraiment un moment unique dans notre vie, quoi. Voilà, c'était très fort et puis c'était il y a quelques années déjà, donc c'est ouais. Très chouette de pouvoir revenir après avec le temps qui passe. Loa aujourd'hui elle a 12 ans, donc c'est quand même c'était pas hier.
Et est-ce que tu as eu d'autres opportunités depuis dans le cinéma, Loa?
Oui, j'ai tourné un court-métrage il y a pas très longtemps et j'aimerais bien continuer à en refaire.
Bah écoute, nous on est derrière toi. De toute façon, on est derrière tous les jeunes nous descendants, donc on est derrière toi. Et Jacqueline, pareil, on est derrière toi pour que tu continues cette belle carrière d'actrice que tu as depuis si longtemps, n'est-ce pas?
Moi, je trouve qu'on me voit pas assez, mais bon, écoute, tu sais, c'est les frustrations d'actrice, c'est pour ça qu'on est actrice et pas réalisatrice.
Forcément.
Mais actuellement, vous me découvrez en espagnol, tu es au courant de l'actualité ou pas?
Pas du tout.
Alors, bah, il faut le dire à notre public, pardon les Ibériques, mais actuellement, on a été numéro 1 depuis 4 semaines sur Prime Video, avec la série Culte sur les Lofters. Et, perdón, chicos, pero en eso voy a hablar así, parce que en espagnol, mais c'est pour mieux revenir au Portugal, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, actuellement sur Cult, sur Escort Boys, d'un autre
oui,
Lujo Ruben Alves,
Alves,
qui passe lundi soir sur TF1, pour ceux qui n'ont pas Prime, les 3 premiers épisodes, je suis dans le 5e, c'est bien, je fais ma pub.
Mais
et dans Cult sur Prime Vidéo en espagnol, et puis à Meurtre au Puy-en-Velay qui arrive, donc vous aurez l'occasion de me revoir pour ceux qui m'aiment. Et puis ceux qui ne m'aiment pas, changer de chaîne, il y a plein de chaînes, il n'y a pas de souci.
Et on t'aime. Et il y a aussi Loa qui arrive sur vos écrans. Merci d'avoir répondu toutes les trois à nos questions. Juste après, on sera en interview avec Claudia Volgean qui est en train de présenter son film actuellement. N'hésitez pas à prendre vos places encore pour ce soir et demain. Le week-end est loin d'être terminé. Et tout de suite, je vous laisse avec TDB de Oh Boy.
Balade en bolide, elle c'est les frais, j'ai baissé la vite. J'étais ma son cage, j'étais ma son car. Ça en fout le business, la puce et les gueuches. J'arbat c'est les bâtards, pourquoi t'es sur la file de gauche? J'suis avec les malgaches, comme au co-sonic et au guiche. Si elle fait la baisse, pas compliqué, elle repart en ish. T'es pas où tu te caches, tu fais le bon Jimmy, mais tu vends la mèche.
Tu vends la mèche.
Même quand il fait hoche, sur Paris, les petits revendent de la neige.
Yeah.
Ouais, j'm'en faire la baisse. Faut pas que tu retournes ta veste.
Sur ton test.
Elle veut sa kermesse, ouais, c'est le Prada, les toutes nouvelles pièces.
Et toutes nouvelles pièces.
Et ça fume la couche.
Couche.
J'ai de la frappe qui te couche.
Qui te couche.
Avec eux, ils se touchent. C'est des flocos, mais ils ont grave la bouche. J'quitte la zone. J'bende à Côte d'Azur.
Linda,
Côte d'Azur.
Yeah.
Linda, Côte d'Azur.
Linda, Côte d'Azur.
Medusa.
Yeah.
Enfoiré, Mobus.
Enfoiré, enfoiré.
J'quitte la zone. Figo en mode avion. Y'a les bleus dans le bat. Toujours j'suis gelette en Clio. En corvette, j'fais des boulettes sur mon sorvette.
Moi
les baisses de Belouette. Tu tires une taf, t'as Bubblewet. Y'a le Covid, mes distances d'un mètre. Elle est fraîche de benzé. Elle est moins dans la fusée.
J'me
quitte la zone en part. En ce moment dans le side, j'y aggrave les pas. Font des teams uniques, font pas m'pénard. J'relin joint d'un mètre. Distance d'un mètre, y'a le Covid, j'm'envole sur Namek. J'quitte la zone, j'bend à Côte d'Azur. Bina Kotazo, Medusa, enfoiré Mobusa, quitte la zone, bigo en mode avion. M2 jusqu'ici, tout, tout, bang. Y'a brouillon, ça peut, tout, tout, bang. Mon frère la buzz, tout, tout, bang. Ma baby est stress, j'suis tout le temps avec le gang.
Gang, gang, Albat, Albat, ça meurt.
Radio Enfer. Game Stade de Chantonne. Desliga, e estamos com a Cláudia Varjão, realizador do filme Amassan e tantos outros, que está a ser projetado agora mesmo. Está tudo bem, Cláudia?
Está tudo impecável, e aqui ao pé de vocês, melhor ainda.
Estou muito feliz por te ver mais de uma vez.
Obrigada
em Paris.
Pelo vosso convite.
Então, já passaste pelo Tempo Estado 2.1?
É verdade.
Já nos vimos não sei quantas vezes,
é verdade.
Já nos conhecemos de cor.
É verdade, vocês estão em toda a parte, hein? Estão nos sítios certos, diria eu.
Tu também, então?
Não sei.
Já que nos cruzamos?
É um ponto de vista.
És uma realizadora conhecida e reconhecida em Portugal pelos teus filmes documentários. A Amassan estreou em 2016, fala de uma comunidade de pescadoras no Japão. Porque quiseste destacar essa comunidade de mulheres?
Porque em Portugal e numa grande medida nos países pelo mundo, a pesca está entregue aos homens. E quando eu descobri estas mulheres, teve um impacto enorme o papel emancipador que elas tinham e que representavam também para as novas gerações. Estamos a falar de uma tradição milenar com mais de 2000 anos e uma tradição altamente perigosa, altamente física. Elas mergulham até 10 metros de profundidade ou mais para apanhar marisco, fazem a sua vida independente através desta prática. Muitas delas morrem, têm graves problemas de saúde. Elas são umas ninjas do mar.
Mas nós vemos que elas têm problemas com os ouvidos,
a audição
também.
A coluna.
Filme muito forte.
Eu acho que é forte em várias medidas, forte fisicamente, porque projetamos o que seria se fosse a nossa mãe ali a mergulhar, a nossa avó, porque vemos uma personagem que tem cerca de 80 anos, e portanto eu acho que o filme transmite esse perigo, esse esforço físico e também uma certa beleza de conseguirmos ver numa sociedade patriarcal mulheres a serem de alguma forma livres na gestão do seu dia-a-dia, e eu acho que isso é muito tocante, é muito inspirador.
Também acho, e sabes, eu apresentei o documentário Cora, que fizeste no início da temporada, onde apresentavas também mulheres, e este filme é só mulheres também. Porquê que são unicamente mulheres?
Julie, eu não te sei responder com rigor a essa questão. Sei que ao longo desde que comecei a fazer filmes foi-me interessando, talvez pela proximidade, porque ao falar das mulheres estou a falar de mim. Fui-me aproximando muito do olhar feminino, do que é isto do olhar feminino, se existe um olhar feminino, da vida feminina, e acima de tudo porque me parece que a mulher na história do cinema é representada sobretudo através do olhar dos homens. Como a minha passagem na vida será curta, aquilo que eu posso fazer é também, através do meu amor e do meu ofício ao cinema, é devolver-me o olhar de mulher sobre mulheres.
Para acabar rapidamente, porque não temos muito tempo, é o único filme documentário do festival? Acho eu, ou com o da Ginete
talvez,
também.
Talvez, sim.
Porque era importante mostrar esse filme neste festival?
Eu acho que essa pergunta tem que ser feita aos programadores, mas eu diria que este filme é feito por uma portuguesa fora do território português. Parece-me que isso é uma característica, enfim, desde logo contemporânea. O ser humano... Contemporânea, não, retiro. É uma característica do ser humano, ponto. Somos seres de viagem, de movimento. Talvez este filme represente esse lado do português, não é? De identidade portuguesa, de emigrar. E aqui é um olhar que emigra à procura de outra cultura, e sobretudo este filme foi feito numa altura em que deixou de existir o Ministério da Cultura em Portugal, e a realizadora não ficou em Portugal. Foi como os imigrantes portugueses, não é? Não ficam, vão. Talvez tenha esse ponto de encontro até com a própria cultura portuguesa em França.
Obrigada, Cláudia.
Obrigada, eu.
São quase 15 horas na Rádio Alfa. Voltamos daqui a 5 minutos para entrevistar o Glassum. E proponho primeiro ouvir a canção do Elevador, de Afonso do Brás, uma música do álbum Barulho de Fundo.
Moro no resto do chão. vista pra recessão, para ver se bate à porta a sorte de ver chegar dona do primeiro direito, que me dá uma dor no peito com esse seu defeito de não ser do meu andar. Então traço um grande plano, que me esqueça ou que me engano, sempre que a vejo assim, ali parada no meio do hall de entrada, por não querer ir de escada, só para me ver a mim. Assim começa a nossa história de amor, nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela. Ai, já devia haver vacina para curar a minha sina, que o raio da vizinha tem bem amaldiçoar. De que vale estar tão perto, ser um amor quase certo, se depois entre nós dois há sempre um teto a trabalhar? Saio logo de mansinho para cruzar o seu caminho e poder vê-la assim, ali parada no meio do bolo de entrada, por não querer ir de escada, só para me ver a mim. A nossa história de amor, nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela.
Tempestade 2.1. 15h05 sur Radio Alpha. Vous êtes bien pour, vous êtes bien toujours là pour l'émission Tempestade 2.1. On est toujours en direct du festival Hola Paris au Club de l'Étoile. Et là, je suis avec le fabuleux Glaçon qui est déjà passé par Tempestade 2.1 il y a quelques mois. Comment ça va?
Quel honneur, merci, ça va très bien, merci beaucoup Julie. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe.
Je suis très très contente de te revoir.
Ben oui.
Franchement, t'es mon chouchou du week-end et t'es celui qui sort du lot puisque tu ne fais pas de cinéma toi.
C'est vrai, c'est vrai. Le cinéma, j'aime beaucoup le regarder. Après, je sais pas si je passe bien à la
mais
caméra.
Si, tu passes très très bien. Mais du coup, tu es ici tout le week-end quand même pour présenter une exposition inédite.
Tout à
Quel
fait.
En est le sujet?
Alors, bon, je pense que tu t'en doutes, vous vous en doutez. On parle forcément de l'histoire du Portugal, on parle forcément du 25 avril et on parle de la révolution des œillets. Après, l'exposition, je l'ai appelée Orgulhosamente Abril, donc fièrement Avril. Et c'est une exposition qui ne commence pas en 74, elle commence 10 ans plus tôt. Donc on débute en fait une frise chronologique qui commence en 1964 et qui termine en 2024. Et en gros, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire moderne du Portugal à l'époque de la dictature, puis de la chute du salazarisme jusqu'à aujourd'hui et le festival du cinéma Hola Paris, avec des portraits. C'est pas que sur des toiles, c'est sur tout type de support. Donc j'ai peint sur des drapeaux, sur une guitare, j'ai peint sur un vieux poste radio ou un ancien téléphone. Voilà, j'ai essayé de raconter en fait par le graffiti et on va dire le côté urbain, une histoire qui est réelle, la nôtre, celle de la révolution des œillets.
Donc on retrouve quelques œuvres quand même que tu as mis dans ton calendrier de l'Avent du 25 avril en avril dernier, mais aussi des œuvres inédites. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu allais plus loin que le Portugal, parce qu'on voit le Cap-Vert par exemple.
Le Cap-Vert, Angola, Mozambique, Guinée, parce que je déplore le fait qu'on ne parle pas en fait des personnalités d'Angola, du Mozambique ou de la Guinée. En fait, on dit le Portugal en 64. 15 accorde l'indépendance à ses anciennes colonies. Mais c'est nul de dire ça, je trouve. On met pas assez l'accent sur Angola, Mozambique, Guinée. Et donc, j'ai voulu rendre hommage aussi à ces gens-là. Donc, on va y retrouver un portrait de Amilcar Cabral, qui lui est mort un an avant la Révolution, mais très important. Mais on va aussi voir son frère, Luis Cabral, premier président de Guinée-Bissau. Samora Machel, parce que moi j'ai un lien très fort avec le Mozambique, donc forcément je me devais de rendre hommage au premier président mozambicain. Et puis, Agustigunet, du côté Angola aussi. Donc, j'ai voulu, pour moi c'est important, de montrer aussi les visages de ceux qui ont fait l'indépendance, parce que c'est pas les Portugais qui ont fait l'indépendance, c'est les peuples en Afrique, et donc voilà, je trouvais que c'était important.
Oui, d'ailleurs, on sait que pendant un an, ça a été très dur dans ces pays-là, parce qu'il y avait un flou politique, un flou total, en fait, ils ont abandonné les colonies, tout simplement,
complètement.
En avril 1974, et justement là, on sera bientôt en 2025, c'est les 50 ans de la décolonisation, donc tu t'inscris déjà là-dedans.
Tout à fait, tu vois venir le truc ou pas?
Carrément.
Donc oui, non, c'est complètement ça. C'est complètement ça, je voulais surtout rendre ce petit hommage-là aux grands noms qui ont fait ces pays d'Afrique, qu'on mentionne peu en France, bizarrement. Alors heureusement que des médias, des radios nous en parlent. Hein, la situation au Mozambique, pour l'instant, elle est catastrophique avec les élections qu'il y a eu en 2024. Mais c'est important d'en parler. Voilà. Bon, évidemment, je pense que tu me connais, vous me connaissez. Je suis pas trop dans la politique, donc je vais pas faire quelque chose de. Voilà, je suis pas là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière.
Mais pour mettre en avant ces personnes.
Exactement, pour mettre en avant, voilà, exactement ces personnes et ces pays.
Et d'ailleurs, au-delà de ça, au-delà de personnes politiques, de personnages connus, on a aussi des membres de ta famille. Cette expo est très personnel aussi.
Je suis obligé. Bah, pour ceux qui suivent mon travail, je suis évidemment obligé de mettre cette touche personnelle, parce que si l'expo commence mon exposition, la frise chronologique commence en 1964, c'est parce que c'est l'année où mon grand-père quitte le Portugal salazariste pour la France libre, les années 60. Donc j'ai choisi la date de l'immigration de mon grand-père. Ouais.
C'est beau, et j'ai vu que t'as peint il y a pas longtemps d'ailleurs ton papa.
Mon papa, ouais. Je dis souvent de façon assez joyeuse, hein, même si c'est triste. Je dis souvent que j'ai commencé le graffiti à son décès, donc il est mort le 28 novembre, on est le 30 2014. Hein, il nous a quittés en 2014, donc ça fait 10 ans. Et donc j'ai l'impression que cette exposition, c'est un petit peu une belle manière de, comment dire, conclure ces 10 ans dans le monde du graffiti. Moi, je suis assez fier en fait. Tout à fait, on va dire, c'est un peu perso ce que je vais dire, mais je suis fier à titre personnel de me dire que ça fait 10 ans et que nous voilà au Festival de la Paris avec cette opportunité de montrer mon travail. Et vous allez voir que j'ai pas peint que sur des toiles, mais aussi sur des canettes, sur des bombes vides, parce que moi, à la base, quand j'ai commencé en 2014, j'avais pas le droit de peindre des murs, je m'exerçais sur des canettes, sur des bombes vides ou sur d'autres supports, genre du papier. Et donc c'est une expo très très personnelle à la fois, tout en étant historique et j'ai envie de dire... intéressante d'un point de vue culturel.
Oui. Voilà. Et nous aussi, on est très fiers de toi.
Merci.
Je me permets de te le dire. Et dernière question avant de terminer. Déjà, n'oubliez pas que vous pouvez voir l'exposition tout le week-end. Le week-end n'est pas du tout fini.
Oui.
On a encore ce soir, encore deux films ce soir et demain toute la journée. Donc n'hésitez pas à passer voir Glaçon. Je pense qu'il répondra à vos questions avec plaisir.
Ah ben moi, je serai là. Alors pour ceux et celles qui viennent demain, vous avez en plus la chance de me voir moi, mais la star des stars qui est mon grand-père, qui va venir.
Oh,
eh oui,
wow.
Au cinéma, pour la première fois de sa vie, voir un film au cinéma. Eh oui,
incroyable.
Lui qui ne connaît que la télévision. Donc oui, il sera là.
Trop
et
bien.
Qui de mieux que lui pour expliquer son départ du Portugal pour la France. Je pense que pour ceux et celles qui ont des questions plus pertinentes, sur ça, sur ce sujet-là, mon grand-père sera là et sera ravi de répondre à vos questions, même s'il ne sait pas où il va demain.
Ça va être génial.
Il n'a pas le choix. Ouais.
Ça va être génial.
J'ai hâte.
Et quand même une petite dernière question,
oui.
Parce que du coup on l'a dit, mais c'est un festival de cinéma. On s'attend pas forcément à avoir un artiste graffeur.
Oui.
Pourquoi c'est important que tu sois là aujourd'hui, enfin ce week-end?
En fait, c'est important. Je sais pas si ça l'est. Je sais que pour moi c'est une fierté, c'est un honneur d'être parmi tous ces grands noms du cinéma. Il y a Nuno Sarayva qui lui est illustrateur. Moi, je suis plus du graffiti, même si Nuno a fait du muralisme. Moi, je trouve que c'est complémentaire. Je trouve que c'est plutôt sympa, sachant que j'ai découvert le graffiti grâce à un film, le film qui s'appelle Faites le mur, réalisé par Banksy. Donc j'ai découvert le graffiti grâce au cinéma, et j'ai découvert la révolution des œillets grâce à Capitaine H. Debril de Maria de Medeiros. Donc j'ai, grâce au cinéma, découvert la révolution des œillets, le graffiti, et je mélange les deux aujourd'hui, demain, dans un festival qui finalement représente le mieux l'expression « la boucle est bouclée ».
Ah bah c'est très très beau, franchement c'est une de mes expressions préférées en plus, donc je suis ravie. Félicitations à toi,
merci.
On est très fiers de, toi. N'hésitez pas à passer le voir avec grand plaisir, il faut voir cette exposition.
Oui.
On vous en mettra des extraits sur les réseaux sociaux évidemment.
Venez merci. Voir mon papy.
Merci Glaçon d'avoir été avec nous. Nous on continue jusqu'à 16h. Je vous laisse avec Eor de Marie Coutinho et on revient juste après.
Até quando vamos aguentar? Em tempos sombrios não podemos recuar. É hora de agir. Promessas incumpridas não nos vão ajudar. É hora de agir. Precisamos de mais amor. O mundo está ferido à procura de cura. Com empatia, união, tudo perdura. Em tempos sombrios, não podemos recuar. É hora de agir. Promessas incumpridas não nos vão ajudar. É hora de agir.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, nous sommes toujours en direct du festival Hola Paris au Club de l'Étoile. Je suis avec Fernando Ladeiro, un des fondateurs de ce festival avec ton frère Wilson. D'ailleurs, je me suis permis de te tutoyer, excuse-moi.
C'est trop tard.
Allons-y, tutoyons-nous. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu en famille ce week-end. Je ne sais pas si tu as la même sensation.
Bah, c'est d'abord la famille du cinéma. Après, c'est la famille, on va dire, franco-lusitanienne ou luso-française qui est réunie ici. Donc oui, quelque part, il y a un côté un peu familial, c'est vrai.
Mais surtout, vous avez fait ça entre frères.
Oui, alors ça rajoute l'aspect familial, mais bon, c'est, je dirais que tout ça, c'est plusieurs hasards qui associés créent quelque chose, effectivement, qui paraît construite.
Et tout le monde se connaît, enfin, tous les réalisateurs se connaissent entre eux. Moi, je trouve ça fantastique. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était incroyable, cette familiarité, vraiment, qui existe entre tous les acteurs du cinéma portugais.
Oui, c'est un peu vrai dans tous les secteurs culturels. C'est-à-dire que les gens du cinéma français se connaissent tous aussi, donc c'est logique que ceux du cinéma portugais se connaissent. Et puis, mais surtout pour eux, l'occasion de se retrouver, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de se croiser comme ça. Et là, ils sont tous ensemble pendant 3 jours, donc ils sont très heureux aussi de se voir, de pouvoir s'asseoir, prendre du temps pour discuter. Et c'est aussi un des attraits de ce type d'événement.
Et d'ailleurs, une question qu'on se posait et que beaucoup de gens se sont posés, la sélection est très très vaste, avec quand même beaucoup de femmes réalisatrices, avec peu de documentaires, mais quand même un peu, vraiment des sujets très variés. Comment est-ce que vous avez sélectionné les films ?
Bah, l'idée, c'était de faire une présentation, non pas des films sortis récemment, forcément, même si on a ouvert le festival avec un film en avant-première, mais c'était surtout de montrer un cinéma qui est un cinéma moderne, qui commence à avoir beaucoup d'intérêt et de succès au niveau international, parce que les films portugais sont souvent présents dans des festivals, ils gagnent des prix, etc., mais ils n'ont pas encore une visibilité grand public très importante. Et l'idée pour cette première édition, c'était de montrer un petit peu ce qui se fait, selon nous, de mieux, ce qui s'est fait de mieux ces dernières années dans le cinéma portugais, donc d'avoir une proposition assez large, diverse, qui démontre un peu la richesse et la créativité de ce nouveau cinéma portugais.
Et tous les réalisateurs ont direct été très partants, d'après ce que j'ai pu voir.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est fait au départ, quand on a imaginé l'événement, on s'est fait une espèce de liste idéale de films qu'on avait envie d'accueillir et de réalisateurs et de réalisatrices, acteurs et actrices qu'on voulait également inviter. Et puis on a été assez surpris de voir que tous ont répondu favorablement. Le seul qui n'a pas pu venir, c'est Malcolm Eltinge, mais bon, il s'est excusé parce qu'il est en tournage en ce moment, donc il n'a pas pu venir, sinon il serait venu. Et c'était assez exceptionnel de voir qu'effectivement tout le monde avait d'un seul coup dit bah nous on vient, on sera présent, et effectivement ils sont tous là.
Et pas que du cinéma d'ailleurs aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Wilson, on a eu Anne-Amalie Etour ce matin, on aura Madeleine Pereira demain, on a Nounou Salah avec qui a fait l'affiche, et on a la fameuse exposition de Glaçons que nous venons d'avoir en interview. Est-ce que pareil, ils ont été direct partants?
Bah oui, tout à fait, même certains nous ont contactés pour être présents, des gens qu'on connaissait pas forcément, donc c'était en fait l'idée c'est autour du Festival de cinéma qui est quand même la ligne rouge de cet événement, c'est avant tout un festival de cinéma, mais on s'est dit c'est l'occasion aussi de présenter, puisqu'on va réunir un public qui ne connaît pas forcément les films mais qui peut s'intéresser à la culture lusophone, l'idée c'était de présenter autour d'autres langages artistiques, d'autres artistes qui valaient également la peine d'être connus, et de faire une espèce d'annexe à tous ces films avec d'autres propositions culturelles.
Et les luso-descendants sont vraiment présents. Combien vous êtes à travailler sur ce projet? Depuis combien de temps? Est-ce que c'est principalement des Portugais ou est-ce qu'il y a aussi des Français?
Ça va être rapide parce qu'on est deux en fait à travailler dessus depuis des mois. Donc c'est une première édition, donc on a tout fait avec Wilson, du sol au plafond. Wow. Donc c'est une toute petite équipe.
Tous les deux, vous êtes fait accompagner quand même de quelques professionnels?
Non, mais on est professionnels. Wilson travaille à la télévision depuis longtemps, oui. Et moi je suis organisateur de festivals depuis des années, oui. Donc je sais ce que c'est qu'organiser un festival. Hein. Oui. Donc je pense que ça suffisait cette année à nous deux par rapport au format du festival. On a pu le monter quand même, je dirais pas tranquillement, mais sereinement en tout cas.
En plus au Club de l'Étoile, qui est un très bel établissement à côté de l'Arc de Triomphe, très facile d'accès. Ça a été facile de trouver l'endroit aussi.
Pas spécialement. On a vu plusieurs cinémas et effectivement celui-ci nous a paru le plus adéquat par rapport à l'événement qu'on voulait organiser, ce qui permet non seulement de voir des films, mais également vous parliez tout à l'heure de d'autres langages culturels qui étaient présents. On a des espaces pour les accueillir et on a aussi des espaces pour accueillir du public, pour les rencontres. Donc c'était un cinéma qui se prêtait bien à la forme d'événement qu'on voulait organiser.
C'est vrai, ça rend très très bien avec l'exposition de Glaçons, avec les dédicaces et avec les pastéis de Nat, vu que Mantegari est présente. C'est vrai que ça, c'est le petit plus quand même de l'événement.
Oui, c'était histoire de faire coucou un petit peu à la culture aussi gastronomique portugaise. Bon, après, le pastel Nat, c'est maintenant devenu un produit international, parce que tout le monde connaît. Bon, c'est raison de plus pour en avoir ici. Ça aurait été dommage de pas le faire, mais bon, une fois de plus, tout ça tourne quand même autour d'un festival de cinéma. C'est l'axe majeur de l'événement.
Bien sûr. Et heureusement qu'il existe, comme on le disait, comme on l'a répété plusieurs fois, c'est le premier festival de cinéma portugais en France, du moins. C'est quand même incroyable qu'il n'y en ait pas eu avant, quoi.
Ben oui, c'est toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait une première. On s'est posé la question avec Wilson quand on a eu cette idée. C'est est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autres festivals qui existent de ce type? Donc on a cherché, on a vu qu'il n'y en avait pas. Donc, la nature est en horreur du vide, on s'est dit il faut boucher tout de suite le trou, donc on l'a bouché avec ce festival.
Et est-ce que vous préparez déjà une deuxième édition?
Là, on travaille sur la troisième à l'heure actuelle.
Waouh!
Non, je plaisante. On va déjà finir celle-ci, faire le bilan, et puis oui, l'idée c'est évidemment de faire de Hola Paris un rendez-vous annuel du cinéma portugais en France.
Eh bien, écoutez, on donne rendez-vous à nos auditeurs encore ce soir et demain pour les films. On continue, nous, les interviews de notre côté jusqu'à 16h, et puis on a hâte de la deuxième édition déjà. Hein. franchement, on a déjà hâte. Juste après, nous serons avec la réalisatrice Ginette Lavigne, à l'origine du film La Nuit du coup d'État, qui sera diffusé demain en tandem avec Capitaine Stabil. Et avant cela, je vous laisse découvrir ou redécouvrir Plumesses de la chanteuse Piques, qui a été candidate de The Voice Portugal 2020.
Ontem foi a última vez, pela quinta vez. E eu já não conto a ninguém, porque sei que já não faz sentido. E minto aos meus amigos, digo que não sei nada sobre ti e que já ultrapassei. Mas se não durmo contigo, fico a pensar em ti. E vai tudo dar ao mesmo sítio. Na tua cama, no teu abraço, trocamos promessas, dizemos que é desta. Na tua cama, no teu abraço, trocamos promessas e dizemos adeus. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Ontem foi a última vez, pela sexta vez. Eu já gastei palavras a mais para pedir que ficasses. Não devia ser preciso pedir por atenção. Se precisas de espaço, então vai, larga-me a mão. E só quando eu desisto é que tu insistes. E vai tudo dar ao mesmo sítio. Na tua cama, no teu abraço, trocamos promessas, dizemos que é desta. Trocamos promessas e dizemos adeus, mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Trocamos promessas e dizemos adeus, mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu. Mas o meu corpo ainda pede pelo teu.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Spontoon. Nous sommes avec la réalisatrice Ginette Lavigne, à l'origine du film La Nuit du coup d'État, qui sera projeté demain. Comment allez-vous, Ginette ?
Très bien, je vous remercie.
On est très contents de vous recevoir. Et avant de parler du film que vous présentez ce week-end, pourquoi avoir voulu participer à ce premier festival de cinéma portugais à Paris ?
Ah mais pour moi, c'était une évidence. Dès que Wilson m'a contacté pour me proposer de présenter mon film dans ce festival, j'étais très honorée, très contente d'être dans un festival portugais avec ce film qui n'est pas récent, hein, quand même, qui date de 2001. Donc, oui. C'est un film ancien. C'est un film qui a été tourné donc avec Otelo de Carvalho. Je suis très contente d'être très honorée d'être là avec des réalisateurs portugais dont j'aime beaucoup les films. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma portugais.
Mais laissez-moi vous dire que vous avez toute votre place et qu'on est très, très heureux de vous recevoir aussi. Vous, vous êtes française, mais vous avez vécu à Lisbonne entre 75 et 77. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, surtout à cette époque-là ?
Eh ben, à cette époque-là, beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire on avait 20 ans et j'avais pas pu connaître 68 parce que j'étais un peu jeune au moment de 68, mais j'avais ça en tête. Et dès qu'il y a eu ce coup d'État formidable, cette révolution qui se passait là aux portes de l'Europe, moi j'étais plus ou moins dans des groupes militants sans être totalement engagée. Bon voilà, on est parti. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais partie avec des copains en voiture, en traversant très très vite l'Espagne parce qu'on voulait pas s'arrêter à cause de Franco. Et la voiture était pleine de tracts, de journaux, de je ne sais quoi. Et je suis allée donc en 75 là-bas, et puis voilà, et puis je suis restée.
C'est vrai que ça a été une expérimentation du communisme pendant quelques années, le Portugal, à cette époque-là.
Alors, c'était pour moi tout à fait, oui, tout à fait formidable et totalement incompréhensible.
Et pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire et montrer l'histoire de ce pays, de cette période? Alors, après ça,
c'est justement pour ça, parce que j'ai rien compris. Voilà, donc en 77, bon, la vie était un peu compliquée, je suis revenue en France, etc. Et j'ai mis 20 ans avant de retourner à Lisbonne. Mais je suis retournée, j'ai fait un premier film autour de l'affaire du journal Republica. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Othello. Et puis, donc j'ai fait La nuit du coup d'État. Et ensuite un troisième film avec des prisonnières, avec deux femmes qui avaient été prisonnières politiques. Et en fait, je suis allée vraiment parce que je me suis dit, mais j'étais passée à côté de quelque chose en 75. Mmh. J'avais vécu des tas de choses extraordinaires, mais au fond, je n'avais pas très bien compris quels étaient les enjeux. Je ne parlais pas portugais. On était plus dans de l'action. Il y avait des meetings partout, il y avait des occupations, il y avait beaucoup de choses, mais tout ça m'échappait beaucoup.
Voilà. Ok. Et donc, vous avez voulu écrire pour comprendre finalement.
Voilà, c'était une manière de comprendre, d'essayer aussi de rendre hommage, je trouve, à ce grand mouvement qui était un truc d'espoir quand même. Disons pour les Portugais, c'était vraiment formidable, mais également avec tous les enjeux que ça posait à l'époque dans ce monde qui était 75, c'est quand même pas n'importe quoi comme période. Il y a Franco qui est en train de mourir, les Américains qui perdent au Vietnam. On se disait qu'une révolution socialiste pouvait être possible. Mmh. Ouais, que peut-être ça allait commencer au Portugal.
International, voilà. Ouais. Ouais. Et vous avez beaucoup appris du coup avec Hotel Saraiva de Carvalho. J'ai appris d'ailleurs que Hotel Saraiva de Carvalho, le fameux Oscar, selon son nom de code, qui était le maître d'œuvre de cette action militaire, avait toujours voulu être acteur.
Oui.
C'est vrai?
Oui, oui. Alors, en fait, il l'écrit dans son livre. J'ai rien inventé. Je me suis basée sur son livre, Alvorada de Abril, pour faire ce film. Et au début du livre, il parle de ce désir d'être acteur.
Voilà. Et comment est-ce qu'il a réagi à votre proposition, du coup?
Il était très content.
J'imagine.
Voilà.
Franchement, c'est un très beau film. C'est lui qui a écrit ce qu'il disait ou c'est vous qui avez écrit?
C'est moi. Moi et lui. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai rien inventé. Tout était dans son livre.
Oui.
Voilà. Tout était dans son livre, donc on a tourné un peu comme une fiction. Donc il arrivait le matin, il regardait un petit peu les quelques scènes qu'on allait tourner, un peu ce qu'il disait. Et en fait, il allait beaucoup plus loin que moi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tourné en 2000. Il était revenu de tout ça. Hein. Il avait eu déjà les procès politiques. Il avait été en prison. Il était plus dans l'action politique en tant que telle. Et donc il avait une certaine liberté par rapport à tout ça. Et donc, il avait aussi fait une analyse politique des enjeux et de ce qui s'était passé, de la manière dont le pouvoir avait été lui avait été dérobé par Spinola, de ce qui s'était passé après le 25 novembre, etc. Donc, je pense qu'il était plus loin que moi. C'est-à-dire que moi, il y avait des choses que je n'osais pas vraiment dire, puisque c'était.
Bien sûr.
Je suis pas une politique. Je l'ai senti assez. Il était assez content de ce film d'ailleurs. Enfin, on avait fait des projections après et c'était toujours très très sympathique et agréable.
Ça devait être émouvant quand même pour lui de retourner dans cette pièce.
Alors c'est pas Pontinha. Hein.
Je pensais.
Ben non, bien sûr. Au début d'ailleurs, il le dit.
Ah,
il dit au début du film, ça ressemble à Pontinha.
Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai mal écouté, vous voyez.
Non. Et en fait. Je sais pas du tout, je sais même pas à Lisbonne. J'ai tourné à Paris, à Montreuil.
Waouh, ok. Voilà,
on a reconstitué, mais c'est le cinéma.
Mais, mais c'est quand même très réaliste sur comment la pièce était.
Je crois pas. Parce que moi, j'ai vu des photos de Pontigny, hein, et j'ai trouvé ça vraiment affreux. C'était bas de plafond, il y avait des néons. En plus, c'était dans une caserne, donc c'était quasiment impossible d'aller filmer dans une caserne.
Bien sûr.
On s'est dit qu'on allait tout reconstituer. Enfin, okay. Reconstituer.
Bon, ça permet quand même, je pense voilà. Que. Bah, du coup, justement, votre film sera mis en tandem demain avec Capitaine Establir de Mali Medeiros. Je pense que ces deux films, en restant de la fiction, retracent vraiment bien et permettent de comprendre les enjeux du 25 avril, finalement.
Alors moi, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire, si vous voulez. Je pense que c'est un documentaire puisque le personnage joue son propre rôle.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas un comédien, qui joue le rôle de côté d'Othello.
Ok. Voilà. Je pense que c'est un peu à la limite.
Ah ben oui, c'est un peu à la limite.
Mais c'est vrai que c'est plus un documentaire. Bon, désolé, le temps nous est imparti et terminé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Ginette Lavigne.
C'est moi qui vous remercie.
Nous avons hâte de voir votre film demain, votre film documentaire. Et nous donnons rendez-vous à tout le monde pour cette séance spéciale. De notre côté, nous sommes en direct jusqu'à 16h. Juste après, nous aurons une dernière interview. Mais avant, nous restons dans le thème de la séance spéciale de demain avec le groupe Resistance. Le 25 octobre dernier, ils ont sorti l'album « Quand sois-je der vous sein ?» et je vous propose d'écouter « Uke Fashfart » issu de cet album. Tempestade 2.1 na Rádio que nos liga. Estamos quase a chegar no final da emissão, mas estamos com o Tiago Guedes e a Isabel Abreu do filme Trace, em português Restos de Vento. Está tudo bem com vocês?
Sim.
Sim, estamos muito contentes também de estar aqui nesta primeira edição deste Festival lá em Paris e de fazer parte do programa e ao mesmo tempo de poder trazer muito do nosso cinema, algum do nosso cinema, de grandes realizadores e realizadoras e de atores e atrizes e dá-los a conhecer um bocadinho aqui em Paris.
Estou muito contente por estar com vocês. O filme Restos de Vinhos aborda a questão de um ritual pagão na região norte de Portugal. Ainda é algo que existe, que é praticado. Eu não sou do norte, por isso eu não conheço.
Este tipo de tradição é baseado em uma fusão de vários rituais, ou seja, não existe, não é concreto. Mas é baseado em vários que existem, sim. Temos vários tipos de tradições que incluem muitas das características que vemos nas do filme.
A Isabel tem o papel de a Judith que foi vítima desse ritual, foi salvada pelo Loriano, a personagem principal, vamos dizer. Como foi ser ela, enquanto mãe, anos depois deste traumatismo?
Eu acho que o filme aborda algo. Eu não nasci na cidade, nasci no campo, não nasci no norte, nasci no sul, mas eu sei o que é fazer parte de pequenas comunidades, de pequenas vilas. Há algo que o filme tem e que a mim me interessa muito, como mulher e também como atriz, interessou-me muito trabalhar, que tem a ver com a questão da violência, desta perpetuação da violência, desta violência invisível e que está completamente entre nós e até onde, no meu caso, enquanto Judite, até onde é que tu vais para salvares os teus, porque na verdade é como se dentro deste filme tu começasses com alguém que te liberta e te salva e que depois sacrificas e entregas à morte para salvar a tua filha. E este sítio de amor-dor, de violências, e onde, lá está, eu acho que todos nós e todas nós acabamos por ser vítimas dessa violência, foi algo que me interessou bastante trabalhar neste filme.
Também gostei muito de ver esse aspecto, que é muito duro, na verdade. Eu adorei o filme.
Obrigada.
Digo já. Vai ser postado daqui a uma hora, às 5, no Clube de l'Étoile. E este filme aborda várias temáticas, na verdade. Não é só um ritual pagão, não é só violência. Temos muita psicologia, temos a questão da morte, do ser isolado, mas também violências que podem ser sexuais. Eu percebi essa parte do filme que é muito pequena.
Do consentimento,
exatamente.
Do abuso, de não ter a hipótese de dizer não, nem sequer teres voz para dizer não, de perceber também até que ponto é que algumas violências não param, porque ela, a Judite mais nova, portanto o meu personagem mais novo, ela diz parem, para, e aquilo continua, né? E nós continuamos a ver essa violência hoje em dia. Nós falarmos de abusos e das agressões sexuais, essa é uma questão e é um tema que tem de ser trazido. Depois há uma outra coisa que eu gostava de falar também sobre o filme, desculpa Tiago, depois eu já te passo, é a última coisa que eu vou dizer, que tem a ver com a questão da tragédia, porque eu acho que este filme tem quase algo trágico, como as tragédias gregas, que é algo que não tem fim, que não vai terminar, que a tragédia grega tinha muito, não é? As grandes tragédias. Eu acho que este filme é verdadeiramente mais do que um drama, é Sim. uma tragédia.
Também acho, eu percebo muito bem isso do teatro, também de ser num só local, que é a vila, nesse caso, e dessa tragédia de coisas horríveis que não param sempre, e achei também interessante ver o lugar da mulher no filme, que é ao mesmo tempo muito importante e de um outro lado é um ser inferior no filme.
É tratada como tal, sim.
Sim, achei muito interessante. Como é que foi recebido o filme em Portugal e também com o público internacional, porque foi selecionado no Festival de Cannes em 2022?
Sim, o filme estreou em Cannes em 22 e depois ainda teve a sua estreia cá também em Paris. Eu acho que já foi em 23 quando estreou. Foi bem recebido, eu acho que foi um filme bem recebido e bem acolhido. Acho que mexeu muito com muita gente, porque trata de realidades que são muito próximas de muitas pessoas que cresceram em sítios mais isolados, mas não é verdade que seja só uma característica desse isolamento, porque o tipo de poder e de força que exercem os mais fortes sobre os mais fracos acontece em todo lado, acontece nas grandes cidades e acontece, e esse foi o tema, foi o ponto de partida quando eu e o Tiago Rodrigues decidimos escrever, era exatamente para falar sobre a facilidade com que nós, enquanto pessoas, conseguimos ficar extremamente egoístas, pensar só em nós e abusar dos mais fracos com uma facilidade grande.
Eu diria dos mais frágeis, porque eu acho que ele nem é mais, nem tem a ver com fraqueza, tem a ver com fragilidade. E lembrei-me de uma coisa agora que estavas a falar, que foi, e que tu falaste, e agora se calhar não veio, que foi Coimbra, a relação das tunas, por exemplo, e dos rituais das tunas, pois, com aquele ritual que acabas por ver ali e que continua a existir.
É verdade que é um filme ainda muito atual. Obrigada a Tiago Guedes e a Isabel Abreu por ter respondido às minhas perguntas. A emissão está quase a acabar, a emissão é excepcional. Obrigada a todos os artistas que passaram hoje na emissão. Ainda podem comprar os seus bilhetes para ver os dois filmes de hoje, o Trace de Tiago Guedes às 5 e En automne à Gretchen Armus de Marco Martins à 21h. Não esqueças de comprar os seus bilhetes para amanhã também. Do meu lado, eu digo a todos os ouvintes, até para a semana, das 14 às 16, com um novo convidado que vocês conhecem bem. Deixo-vos com um featuring incrível entre a Dua Lipa e o Pierre de Mer. Ça s'appelle 10 Wolves e vocês já adoram. Já estou a me misturar as línguas todas. Tchau, tchau, boa semana.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, boa semana. Maybe we should switch girls.